Justement dans la province d'origine de l'ex-président Ali Bongo, le Haut-Ogooué, là d'où vient également celui qui l'a chassé du pouvoir et qui prétend lui succéder, Brice Clotaire-Oligui Nguema. On en discutera également de cette élection avec notre invité, la professeure Florence Bernot. Un peu de théâtre également pour découvrir la pièce Terre de la franco-irakienne Tamara El Saadi. Elle revisite la mythique Antigone de Jean Anouilh. Mais d'abord, l'actu sport sur RFI. Et c'est avec Christophe Diremzian. Bonjour Christophe.
Bonjour Sébastien.
Du foot avec vous ce matin. À la fenêtre des éliminatoires du Mondial 2026, ça y est, c'est refermé. Les internationaux africains sont donc de retour en club pour la dernière ligne droite des championnats européens.
Et déjà avec réussite pour certains, à l'image du Nigérian Victor Boniface, remplaçant des Super Eagles ce mardi lors de la réception du Zimbabwe, mais titulaire et buteur hier soir avec le Bayer Leverkusen, vainqueur de Bochum 3-1 lors de la 27e journée de Bundesliga. En Ligue 1, on en est au même stade, 27e journée, avec la très bonne opération en ouverture de Strasbourg, tombeur de Lyon 4-2. Les Alsaciens en profitent pour subtiliser à l'OL la 5e place d'un championnat où ils jouent fait, on peut le dire, pour le titre. Le Paris Saint-Germain pourrait d'ailleurs être sacré dès ce soir si plusieurs conditions sont réunies, et notamment le résultat du match Reims-Marseille. Lointain dauphin du PSG, proche du sacre donc, l'OM doit éloigner la menace notamment de Monaco et de Nice qui s'affrontent dans la soirée pour le derby de la Côte d'Azur, tout en renouant avec la victoire après deux défaites. Les Rémois, eux, luttent pour ne pas descendre, mais face à des Marseillais qu'ils ont battus la saison dernière en Champagne, leur entraîneur malien Samba Diawara répète que le duel n'est pas joué d'avance.
On ne part pas vaincu, parce qu'on s'attend souvent à ce que l'ogre marseillais ou l'ogre parisien vienne croquer le stade de Reims qui est mal en point. Mais tout comme je vous l'avais dit il y a 10 mois que c'était possible de battre Marseille, et ça a été le cas, on est capable de battre Marseille, on est capable de se relancer contre l'OM. Ils ont perdu des points qui les mettent à portée de tir de certaines autres équipes, donc forcément ils ont besoin d'assurer leur deuxième place. C'est une équipe qui est dominante. Si on enlève les stats contre le PSG, c'est une équipe qui a 70% de possession de balle, voire 80% sur certains matchs, donc ils aiment avoir le ballon. Ils attaquent en nombre. Quand ils n'ont pas le ballon, ils veulent le récupérer très rapidement en étant très agressifs. Donc on s'attend à souffrir, mais 15e de Ligue 1, tu souffres à tous les matchs. Donc oui, on va souffrir, mais on ne sera pas des victimes non plus.
Samba Diawara avant Reims-Marseille, coup d'envoi à 16h, TU.
Il était l'un des athlètes portés disparus après les JO de Paris 2024. Le nageur Freddy Mayala, désormais officiellement un réfugié en France.
Oui, la Cour nationale du droit d'asile a accepté la demande du Congolais de 24 ans qui avait participé aux séries du 50 mètres l'été dernier à l'Arena de la Défense. Très critique sur ses conditions de préparation au pays avant les JO, il avait décidé de ne pas rentrer à Brazzaville, installé depuis plusieurs mois en Bretagne où il s'entraîne tous les jours de la semaine dans la région de Rennes. C'est avec un grand soulagement qu'il a accueilli la nouvelle.
J'étais rempli de joie parce que avant ça, j'étais dans les craintes, quoi. Donc du coup, j'étais rempli de joie quand j'ai reçu la réponse qui était positive. Ça va me permettre de bien poursuivre ma carrière, de bien exercer la natation sans avoir un problème avec qui que ce soit, quoi. J'ai l'accès à la piscine librement. Je ne pouvais plus vivre ce que je vécis avant quand j'étais dans mon pays, quoi. Donc du coup, j'étais très rempli de joie. Je me sens très soulagé, je peux le dire. En fait, je pourrais bien me faire par rapport à ce que je faisais avant. Le but serait peut-être que je puisse chercher à rejoindre l'équipe olympique des réfugiés, si possible, essayer de voir si on pourra atteindre les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Au niveau du Congo, le problème de la natation, c'est juste la piscine. C'est pas qu'il n'y a pas de piscine, il y a la piscine, mais ils ne veulent pas donner l'autorisation aux athlètes de s'entraîner. Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas la liberté d'expression, quoi. On ne peut pas tout le temps dire ce qui ne va pas dans le truc pour éviter d'être dans des ennuis, quoi.
Le témoignage de Freddy Mayala, recueilli par Victor Missistrano.
Qui referme donc votre journal, Christophe Diremzian. On vous retrouve tout à l'heure. 4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce samedi 29 mars. Et c'est plus de 700 morts. Bilan encore très provisoire du séisme qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande. Hier matin, un séisme de magnitude 7.7. À l'heure actuelle, la quasi-totalité des victimes recensées le sont en Birmanie. Jamais un tremblement de terre aussi puissant n'avait frappé le pays en plus d'un siècle. La répression qui s'intensifie en Turquie à quelques heures d'une manifestation de grande ampleur. Plus de 2000 personnes déjà arrêtées depuis depuis l'incarcération il y a 10 jours du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui était considéré comme le principal rival politique du président Erdogan. 4 mois après la trêve, de nouveaux bombardements israéliens sur la banlieue de Beyrouth. Des tirs qui ont touché les quartiers sud de la capitale, considérés comme un bastion du Hezbollah, en réponse, selon l'État hébreu, à des tirs de roquettes sur son territoire. Des frappes qui interviennent alors que le président libanais était en déplacement en France. La guerre en Ukraine, 4 nouveaux morts au moins et 20 de blessés à Dnipro, ville du centre-est du pays, après une frappe de drone, 20 d'appareils autonomes envoyés sur la ville, selon le gouverneur de la région. Un incendie s'est déclaré, plusieurs immeubles endommagés. Elle emmènera les électeurs gabonais jusqu'à la présidentielle du 12 avril. La campagne électorale débute officiellement aujourd'hui au Gabon. 8 candidats engagés, dont le général putschiste qui a chassé Ali Bongo du pouvoir et qui a raccroché ses galons pour se présenter, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a lancé pour cette campagne le rassemblement des bâtisseurs pour quitter le cadre de l'ex-parti au pouvoir, le PDG. Pourtant, il n'hésite pas à revendiquer l'héritage d'Omar Bongo, dont il fut l'aide de camp pendant 8 ans. Et comme l'ex-président, à qui il est apparenté d'ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema vient lui aussi de la province du Haut-Ogooué. Alors pour comprendre comment cette succession est vécue sur place, notre envoyé spécial François Mazet s'est rendu à Franceville, le chef-lieu provincial. C'est notre reportage du jour.
À notre passage à Franceville, nous sommes à plus d'un mois de la campagne officielle. Pourtant, impossible d'ignorer que le chef de la transition sera bientôt candidat. Le général Oligui Nguema s'affiche sur tous les boulevards et les rassemblements d'associations de soutien créés pour l'occasion se multiplient. Ce samedi, plusieurs centaines de femmes en t-shirt blanc, comme Imelda, une infirmière en formation, ont été convoyées des localités du Haut-Ogooué.
On veut qu'il pose la candidature pour lui voter parce qu'on voit déjà ce qu'il fait. Ça lui prouve déjà qu'il a l'amour pour la population et il a pitié de la jeunesse.
Là, ici, vous l'avez vu en ville, des choses qui changent depuis 1 an et demi?
Oui, il change, il construit, on a vu comment il construit déjà les maisons, les routes, surtout dans mon village à Onga. Les merveilles qu'il fait déjà là-bas, ça me prouve déjà qu'il adore sa population.
Ornières bouchées, façades en réfection, écoles réapprovisionnées, les marques du CTRI, le comité militaire qui a renversé Ali Bongo, sont partout à Franceville. Dans les collines environnantes, les nouvelles villas fleurissent et les projets laissés en suspens reprennent. Mais tout le monde n'est pas convaincu par la frénésie de béton qui a gagné la transition. Guy Roger Mangonda est professeur dans un lycée de la ville.
À chaque période électorale, on a souvent vu la même chose. Ce sont des opérations de charme. Ali Bongo, quand il est arrivé, il disait qu'il était un bâtisseur. Il a commencé à faire ce que M. Oligui est en train de faire. Et après, on a compris que ce n'était pas finalement un bâtisseur. Les gens qui ont accompagné Bongo père, ce sont les mêmes qui ont accompagné Bongo fils, ce sont les mêmes qui accompagnent Oligui. Et pourtant, M. Oligui avait dit que ce sont eux qui ont fait tomber le Gabon. Il n'y a rien qui est restauré.
Un constat partagé par Marcel Libama, leader syndical, adversaire de l'ancien régime, député de la transition. Il espérait lui aussi une rupture plus nette.
Mais à l'évidence, nous nous rendons compte qu'il y a une continuation. C'est les mêmes choses, les mêmes façons de faire, les mêmes réflexes. Donc il y a un paradoxe entre ce qui se passe sur le terrain et la gestion, les gestionnaires du pays. Ça nous laisse pantois, dubitatif, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut ?
Malgré ses réserves et comme la quasi-totalité des cadres de l'ancien pouvoir, des ex-opposants et des figures de la société civile, Marcel Libama a finalement intégré la campagne Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué. François Mazet, de retour de Franceville, RFI.
Et on reste justement au Gabon pour parler de cette campagne et de cette présidentielle du 12 avril. Toujours avec François Mazet qui suit de très près ce temps électoral pour la Radio du Monde et qui reçoit maintenant Florence Bernot, professeure d'histoire de l'Afrique subsaharienne à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Afrique centrale. Elle a coordonné le dernier numéro de la revue politique africaine Gabon, corps politique et coup d'État.
Bonjour Florence Bernot.
Bonjour.
La campagne électorale officielle débute ce samedi au Gabon, mais l'élection du 12 avril n'est-elle pas déjà jouée ?
On peut se le demander, mais quand on pense à l'élection d'août 2023, on n'est jamais à l'abri des surprises. Là, je pense qu'on est quand même dans une autre configuration, bien sûr. Le général Brice Oligui Nguema est quand même toujours quasiment au fait de sa popularité. Il y a peu d'opposants crédibles, mais c'est quand même une étape importante dans la légitimation de ce pouvoir.
Justement, Brice Clotaire Oligui Nguema, il a réuni autour de lui la quasi-totalité des dignitaires du régime déchu, des anciens opposants et même des grandes voix critiques de la société civile. Est-ce que vous êtes surprise par cette unanimité autour du chef de la transition ?
Je ne sais pas si je parlerai d'unanimité, mais il est certain que la venue au pouvoir de Brice Oligui Nguema a donné lieu à une recomposition vraiment des forces politiques. Il a remis finalement au pouvoir et comme interlocuteur des grandes familles, des composantes de la société civile qui avaient été finalement relativement écartées par le clan familial autour d'Ali Bongo. Ça explique sa capacité finalement à la fois recomposer, mais inclure, il parle beaucoup d'inclusivité dans son discours, une grande partie de ses forces politiques.
Alors, le principal challenger de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Alain-Claude Billy Binzé, un des piliers de la présidence d'Ali Bongo, qui multiplie d'ailleurs les attaques contre la transition. Est-ce que, selon vous, c'est un opposant crédible? Est-ce qu'il peut convaincre des gens qui sont frustrés par ces difficultés du quotidien et qui pensent que le pays ne va peut-être pas dans le bon sens avec la transition?
Certains au Gabon se posent un peu la question de cette candidature. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, qu'il y ait un opposant avec une vraie stature. Ceci dit, bon, c'était l'ancien, le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Il représente quand même vraiment l'ancien régime. Coopté, qui était vraiment les piliers du système, le PDG. Et finalement, aujourd'hui, et cette élite et le PDG sont très déstructurés, très silencieux. Je ne pense pas que vraiment il y ait déjà une érosion de la popularité de président de la transition telle que les gens aurait recours vraiment à un ancien classique du pouvoir déchu.
Dans ses déclarations, le général Oligui Nguema, il alterne entre la valorisation d'un côté de l'héritage des Bongo, la restauration de la dignité, c'est quelque chose qu'il dit souvent, et les promesses de rupture avec l'ancien système. Comment est-ce que vous voyez le mélange de ces deux discours?
C'est en partie ce coup d'État qui appelait sur place le coup de libération, une restauration du régime d'Omar Bongo, c'est-à-dire une sorte de période qui a été vue quand même comme positive sur le plan de la prospérité économique. Et ce qui est rejeté finalement dans l'héritage Bongo, ce n'est pas Omar le père, c'est Ali le fils, qui a vu vraiment un divorce énorme entre la société civile gabonaise et son président et son entourage. Là, vraiment, c'est là-dessus que je pense que Brice Oligui Nguema veut faire une rupture. Ça se place en partie sur un plan moral, c'est-à-dire celui de l'indignité et de la honte, qui sont des sortes d'émotions politiques par lesquelles les Gabonais exprimaient leur malaise dans une situation où ils voyaient Ali Bongo comme une personne étrangère, une personne qui amenait des valeurs extérieures qui humiliaient finalement les Gabonais, qui amenait aussi beaucoup d'élites étrangères. Donc c'est là où finalement Brice Oligui Nguema se situe, au carrefour d'une rénovation, restauration des valeurs ancienne, si vous voulez, et une rupture avec ce régime de 14 ans où, pour lui et pour quand même beaucoup de Gabonais, il y a eu un véritable dévoiement de ses valeurs.
Il joue sur une forme de mythologie d'un âge d'or de l'époque d'Omar Bongo. Donc, c'est pas pour rien s'il a appelé son rassemblement le rassemblement des bâtisseurs. C'est un clin d'œil direct à Omar Bongo.
Oui, alors, en fait, ce rassemblement des bâtisseurs est très intéressant à plus d'un titre. Mon collègue avec qui j'ai dirigé donc le numéro de Politique africaine, le sociologue Joseph Tonda, parle en ce qui concerne ce rassemblement des bâtisseurs d'un parti unique virtuel. Pourquoi ? Parce que c'est en fait une plateforme. C'est un rassemblement d'associations qui, évidemment, soutient Brice Oligui Nguema. Donc, c'est intéressant parce que c'est à la fois un parti unique, si vous voulez, mais qui n'a pas la rigidité, le côté institutionnel du PDG, de l'ancien parti unique. Donc, il y a un rappel à Omar Bongo dans le côté parti unique, dans le côté bâtisseur. Il y a cette idée qui est un petit peu comme la restauration. C'est un mélange entre une rupture et une reconstruction du parti unique par d'autres moyens, finalement.
Merci Florence Bernot.
Notre invitée, Florence Bernot, la professeure au micro de François Mazet. L'élection gabonaise prévue, je vous le rappelle, le 12 avril. Un temps qui sera bien sûr à suivre sur RFI. Et pour le moment, nous sommes le 29 mars, il est 5h55 à Paris et on prend la direction des planches du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, en région parisienne justement, pour une pièce baptisée Terre, non pas la terre du sol, mais Terre, T-A-I-R-E, comme le silence. L'histoire D'une enfance sacrifiée sur l'autel des puissants, dernière œuvre de l'autrice et metteuse en scène franco-irakienne Tamara El-Saadi. Elle revisite ici la mythique Antigone et Muriel Mahalouf l'a rencontrée pour notre reportage culture.
Enfant, infant, en latin, signifie celui qui ne parle pas. C'est par cette phrase que s'ouvre la pièce Terre de Tamara El-Saadi sur l'enfance.
La question de la voix de l'enfant qu'on n'entend pas, qui est inaudible, m'a toujours un peu obsédée. La question des silences au théâtre et en soi est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais notamment de l'endroit de l'écoute de l'enfant et aussi de comment on silencie l'enfant. Et quelles sont les conséquences sur l'humanité ?
Deux héroïnes se font face dans la pièce. Eden, une enfant placée, ballottée d'un endroit à l'autre, au gré d'une administration absurde, crie et se débat. Antigone est muette. Son silence est aussi grand que la tyrannie du roi Créon, qui veut l'empêcher d'enterrer son frère Polynice.
Antigone, c'est un personnage qui m'accompagne depuis que je suis adolescente. J'avais l'impression que je la comprenais, quoi. Puis il s'avère qu'elle est restée à nos 14 ans et que moi j'ai grandi. Donc je la regarde maintenant avec mes yeux d'adulte et forcément j'ai plus le même regard sur elle. Et la démarche était de un peu questionner les perceptions de la jeunesse d'aujourd'hui sur cette figure-là. Et notamment des jeunesses qui sont victimes de ségrégation et d'oppression, à la fois sur le sol français, mais initialement aussi dans les seuls territoires occupés et victimes de colonialisme de l'ère contemporaine, à savoir la Palestine.
Quand ils sont venus prendre ma maison et qu'ils m'ont chassé de Thèbes, j'ai caché la clé. Demain, j'ouvrirai la porte et on rattrapera le temps perdu. On me fait porter la culpabilité d'une histoire qui n'est pas la mienne.
Ainsi, la tragédie d'Antigone est traversée par celle actuelle de la Palestine et de ses enfants massacrés. Et quand les mots lui manquent, Tamara El-Saadi fait appel à la danse.
Le corps et le silence des corps, leur mouvement en fait est capable de traduire bien plus que les mots. D'où cette nécessité de travailler avec Sonia Al-Kadir, qui est la chorégraphe avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. On travaille ensemble et je dis voilà, en fait sur cette scène-là, ce que j'ai besoin de raconter sur ça, ben en fait j'ai pas les mots, mais toi tu vas avoir les gestes, alors aide-moi. Et c'est comme ça qu'on travaille.
La danse, mais aussi la musique est très présente. Et le chant se mêle au jeu des acteurs, se réduisant parfois à un mot, comme Biladi, mon pays, scandé à l'infini, telle une prière.
Biladi, Biladi.
La pièce Terre, à voir pour ceux qui passeraient en région parisienne au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis jusqu'au 6 avril. Merci à Laurent Hérault qui a réalisé cette session d'information, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Merci à vous pour votre fidélité. On salue d'ailleurs un auditeur qui se dit fidèle, Valentin Bossa, qui nous écoute depuis Kisangani en RDC. Il nous suit depuis son enfance, il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. On l'en remercie. Dans 30 secondes, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Depuis plus de 40 ans, le prix RFI Découverte aide les talents africains à franchir les frontières. Mais aujourd'hui, les musiques d'Afrique ont-elles encore besoin du marché occidental pour prospérer ? Nous en parlons dans un nouvel épisode de Témoin d'actu avec Vladimir Cagnolari.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tout à l'heure à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.